Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Il y a environ 2 mois de ça, je vous ai dit que je vous préparais un épisode spécial. J'aurais vraiment aimé que ce soit celui-ci, mais plusieurs contraintes m'ont empêché de le terminer. Ce sera donc pour une autre fois ou pas. L'histoire que j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui est une des plus récentes que j'ai écrites jusqu'à maintenant, car ce drame est survenu le 2 avril 2023 et s'est en partie déroulé pendant la pandémie. Vous trouverez aussi sans doute que cette histoire ressemble cruellement à celle de tant d'autres qui ont fait la manchette durant la pandémie de cette année-là en particulier, car une vague de féminicides sans précédent frappait alors le Québec. Inutile de vous dire que cette vague a réellement choqué toute la population et ce drame ne fera pas exception. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de José Barriot. Cette histoire commence tout d'abord par une idylle s'amorçant entre Patrick Archambault, 46 ans, et José Barriot, 48 ans. Une histoire d'amour va rapidement se concrétiser entre eux. Ce sera quelques mois à peine après cette rencontre que José emménagera chez son nouveau conjoint dans une résidence appartenant à la mère de ce dernier, située sur le chemin du bord de l'eau à Sainte-Julienne, dans Lanaudière. Malheureusement, ce sera aussi assez rapidement que des problèmes apparaîtront pour ce nouveau couple, car ils avaient apparemment une fâcheuse tendance à être violents, tant physiquement que verbalement, l'un envers l'autre. Misère. Bien sûr, nous verrons ça plus loin dans l'histoire.
La découverte d'un corps.
Quelques mois plus tard, à la toute fin du mois de mars 2023, aux alentours de 20h, une voisine va décider de contacter le 911. Ça faisait déjà quelques jours qu'elle avait remarqué qu'une voiture noire, possiblement celle de José, était stationnée sur le bord de la route. En fait, ce qui la faisait surtout paniquer était que le coffre de cette voiture était resté ouvert depuis. Comme la voiture était enneigée et aucunement déblayée depuis un certain temps, ça les inquiétait beaucoup, elle et son conjoint. Les policiers du poste de la MRC Montcalm se rendront rapidement sur les lieux. Une fois arrivés au domicile, ils y découvriront Patrick, affichant de graves blessures, dont la nature ne sera pas précisée immédiatement. Ils vont aussitôt appeler une ambulance pour qu'il soit transporté au centre hospitalier le plus proche. C'est une fois sur place qu'il succombera à ses blessures. Des techniciens en identité judiciaire et des enquêteurs de la section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec seront alors chargés d'élucider cette mort mystérieuse. Ils commenceront tout d'abord leur investigation en récoltant des éléments de preuve possibles aux alentours.
La découverte d'un autre corps.
Le lendemain, alors que les enquêteurs essayaient tant bien que mal de comprendre ce qui s'était produit la veille, ils découvriront cette fois le corps d'une femme. Elle était étendue dans la neige, inanimée, sur le terrain d'une résidence voisine se trouvant de l'autre côté de la rue, non loin de la résidence de l'homme qu'ils avaient trouvé moins de 12 heures auparavant. Évidemment, ils feront le rapprochement assez rapidement. Il s'agissait bien sûr de José Barriot. Son décès sera alors constaté sur place, puisqu'il s'agissait pour eux d'une mort évidente. Son cadavre présentait des traces flagrantes de violence. L'hypothèse des enquêteurs, à ce moment-là, était que ces deux personnes s'étaient sans doute agressées mutuellement, à l'aide d'une arme blanche et de façon si violente qu'ils en seraient à leur mort tous les deux. Quelle tristesse! Toujours selon eux, gravement blessé, José serait ensuite sorti du domicile, alors que Patrick se serait suicidé par la suite. Bien sûr, l'autopsie qui sera éventuellement pratiquée leur confirmera s'ils avaient raison ou pas. Les enquêteurs souhaitaient également savoir s'il y avait eu légitime défense, que ce soit de la part de José ou de la part de Patrick. Mais qui sont-ils? Je n'ai pas vraiment réussi à trouver beaucoup de détails concernant leur passé, mais voici tout de même ce que nous en savons. Avec un aussi lourd passé criminel, Patrick Archambault était très loin d'être un enfant de cœur. Depuis 1997, il accumulait les arrestations. Il a d'ailleurs fait face à plusieurs accusations d'agression armée, de voies de fait et menaces de mort, d'entrave au travail des policiers, de méfaits, d'avoir troublé la paix, de conduite avec facultés affaiblies et d'introduction par effraction dans le but d'y commettre un acte criminel, mais pas que. Cela ne vous surprendra nullement, mais il a également été accusé par 3 fois de violence conjugale. Un maudit bon gars! Pour ce qui est de José, elle n'avait pour sa part aucun dossier criminel. Selon sa famille et ses amis proches, cette femme de 48 ans, maman de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, et de 4 petits-enfants, était gentille comme tout et, contrairement à son conjoint, avait un très grand cœur.
Mort prévisible.
Au cours des semaines qui suivront cet horrible drame, nous en apprendrons un peu plus sur la personnalité toxique d'Archambault. Des proches de José viendront raconter à la presse les mois de douleur et d'impuissance qu'ils ont dû vivre avant sa mort. Ce n'était un secret pour personne que cette mère de famille vivait une période difficile, du fait, entre autres, qu'elle venait de perdre son emploi et qu'elle allait aussi être évincée de son logement. Selon ses filles, leur mère était épuisée et dépassée par tous les événements qui se présentaient alors dans sa vie. La moindre tâche lui semblait pénible et insurmontable. Sa fille Chloé dira que sa mère était dans un moment de sa vie où elle était en burn-out total. Elle mentionnera également que sa mère n'arrivait plus du tout à donner d'efforts ni au travail, ni à la maison. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle aurait perdu son emploi? L'histoire ne le dit pas, mais pour la soulager un peu de toutes ces contraintes que vivait sa mère, sa fille prendra la décision de prendre ses 2 frères sous son aile, qui étaient alors âgés dans la 20aine. Marie-Lou, son autre fille, dira quant à elle que le coup de la vie stressait énormément sa mère et qu'elle n'était pas du tout dans une bonne passe. C'est malheureusement à ce moment-là qu'elle fera la rencontre de son bourreau et par le fait même de son tragique destin. Ce sera donc en octobre 2022, alors qu'elle est complètement vulnérable, que José fera la rencontre de Patrick via l'application Facebook Rencontre. Elle sera rapidement emballée par cet homme célibataire, avenant, mais aussi propriétaire d'une maison à Sainte-Julienne. Confiante et alors remplie d'espoir, elle quittera la ville de Longueuil et aménagera chez lui à la hâte. Sa fille Marie-Lou dira plus tard que sa mère était facilement manipulable et qu'elle était possiblement dépendante affective. Donc, pour toutes ces raisons, ce sera assez rapidement qu'Archambault commencera à la contrôler, la manipuler et l'isoler. Comme elle n'avait toujours pas d'emploi, ni logement ni voiture, José se sentira rapidement acculée au pied du mur, prise au piège par cet homme contrôlant et manipulateur. De façon insidieuse, il va également très vite contrôler ses finances, ses déplacements et ses interactions. Les chèques d'aide sociale que José recevait lui étaient aussi enlevés. Archambault allait même jusqu'à lui confisquer son téléphone et osait même envoyer des messages textes aux proches de sa conjointe à sa place. Bien sûr, ils s'en rendaient tous compte car les messages ne correspondaient pas du tout aux messages habituellement envoyés par José. Ce sera aussi assez rapidement qu'Archambault initiera José aux drogues et à une consommation d'alcool excessive. Ce sera ensuite petit à petit qu'elle perdra peu à peu le contact avec la réalité. À peine 2 mois après avoir emménagé à Sainte-Julienne, ses enfants commenceront à s'inquiéter de ne plus voir leur mère. Ils avaient bien sûr quelques nouvelles d'elle via des conversations sporadiques et via ses posts sur Facebook, mais rarement en personne. D'ailleurs, tous ses proches remarqueront rapidement un changement de comportement chez elle. Écoutons justement un extrait de sa fille Chloé nous en parler, ainsi que Mélanie, une de ses bonnes amies.
Et ta mère qui change complètement sur les réseaux sociaux, dans sa façon de vous écrire.
Oui, nous, on avait vu une photo de notre mère qui avait comme un fusil dans son pantalon, tu sais, sur son nouveau Facebook, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, tu sais, quel genre de vie qu'il mène.
Elle changeait aussi dans ses messages textes. Elle devenait complètement décousue. Puis après ça, elle me dit, elle m'a appelé une journée, il me semble que c'est rendu en décembre, il y a juste 1 mois que c'est passé. Puis elle m'a dit, tu peux-tu venir me chercher? Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Elle m'a dit non. Là, il a été violent. Fait que je suis partie, puis je suis allée la chercher. Puis elle m'a dit qu'il avait consommé, puis ça, ça l'excusait le fait qu'il avait été violent avec elle. Je l'ai rapporté à la maison. Une semaine de temps, on était travaillés ensemble. Fait qu'elle m'a dit, tu peux-tu venir me porter chez Patrick? J'ai dit non, je veux pas aller te porter chez Patrick. Ouais, mais tu sais, Mylène, j'ai parlé avec. Puis, tu sais, Patrick avait consommé, il est conscient qu'il avait consommé, il a pas été gentil, il me l'a dit. Fait que je suis allée la porter.
Ce sera seulement après la période des fêtes qu'une de ses filles la verra enfin. Elle dira que sa mère était bien amochée et qu'elle avait, à ce moment-là, les bras recouverts d'ecchymose. Durant cette brève visite, Josée ne tentera absolument pas de cacher sa situation. Elle mentionnera à sa fille que Patrick était violent avec elle et que cette fois, il l'avait frappée à la suite d'une dispute car il ne voulait pas qu'elle se couche avant lui parce qu'elle devait sortir le chien. What the fuck? C'est à ce moment-là que Josée fera une première plainte à la police. Malheureusement, elle finira par lâcher prise et retourner chez son bourreau. Chloé dira alors qu'elle pensait sincèrement que sa mère voulait partir, mais qu'elle ne l'a pas fait car elle aimait son conjoint, malgré le fait qu'elle était tout de même vulnérable et qu'elle n'avait alors pas beaucoup de ressources. Mais justement, parlant de ressources, il faut savoir qu'en 2021, au Québec seulement, 26 femmes ont été victimes de féminicides. C'est donc une femme tuée à chaque deux semaines. Il s'agit du nombre le plus élevé de féminicides depuis 2008. Cette année-là, le nombre avait été de 27. Après cette année record de féminicides, l'année 2022 aura déploré, quant à elle, 14 féminicides présumés. Je n'ai pas le nombre exact en ce qui concerne l'année 2023, mais je sais qu'en date du 20 décembre dernier, 48 dossiers de meurtre avaient été ouverts sur tout le territoire couvert par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. C'est tout de même un peu moins que les 54 de l'année précédente. Tout ce que l'on sait, c'est que sur ces 48 dossiers, 18 ont été des meurtres intrafamiliaux, soit plus du tiers. La présence d'antécédents de violence conjugale dans une relation et une séparation sont les facteurs qui augmenteraient le plus les risques d'homicide conjugal et la très grande majorité de ces homicides conjugaux sont commis par un homme à l'endroit d'une femme dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Ces agresseurs s'étaient servis des différents confinements survenus lors de la pandémie pour contrôler et isoler davantage leurs victimes. En fait, dès le début de la pandémie, les maisons d'hébergement pour femmes vont faire face à une augmentation fulgurante de demandes d'hébergement. Ces maisons débordaient alors complètement. Dans plusieurs régions, comme à Montréal, elles affichaient régulièrement complet, alors que le gouvernement menait une campagne publicitaire pour inciter les Québécois à intervenir lorsqu'ils étaient témoins de situations conjugales violentes. Le réseau était complètement saturé et le taux d'occupation était maintenant de 97 %. Pendant la première phase de la pandémie et de son confinement strict, les femmes n'étaient souvent pas en mesure de placer des appels pour obtenir de l'aide. Elles étaient coincées à la maison, sans aucun moyen de trouver un moment loin des oreilles du conjoint violent. Ce qui est fâchant, c'est que le confinement aura été un plus pour tous les agresseurs de femmes de ce monde. Ils avaient maintenant une emprise totale sur leurs victimes. Ils pouvaient donc manipuler leurs conjointes plus facilement, vu qu'elles étaient déjà confinées et donc isolées de leur famille, amis et collègues de travail. Il devenait alors impossible pour elles de demander un hébergement. Tous leurs faits et gestes étaient surveillés. Mais revenons à nos moutons. La meilleure amie de Josée, qui était restée en contact avec elle pendant cette sombre période, racontera que les textos qu'elles s'envoyaient toutes les deux avaient pris une autre tangente. Ils passaient alors de « Patrick est merveilleux » à « Il m'a brassé, je saigne et j'ai mal aux côtes ». Au cours de ce même hiver, n'ayant pas de nouvelles de sa mère depuis maintenant 3 jours, sa fille Marie-Lou s'inquiétera encore une fois. Les nombreux messages textes qu'elle lui avait envoyés étaient tous restés sans réponse. C'est là qu'elle se décidera à communiquer avec son beau-père. Elle lui écrira ceci. « Hé, j'ai plus de nouvelles de maman. Elle vit avec toi, puis j'ai pas de ses nouvelles. Si j'ai pas de ses nouvelles d'ici 24 heures, j'appelle la police. Ça va mal aller. » Ce que va lui répondre Archambault ne la rassurera pas du tout et ce sera par des messages vocaux agressifs, vulgaires et menaçants qu'il l'insultera et je le cite. « mais avant, chastes oreilles, s'abstenir. Ma t'enculer avec un manche à balai, ma tabarnak. Viens-t'en, amène-la ta police. Viens-t'en, sinon je vais aller te chercher chez vous, ma tabarnak de chienne de pute de marde. Marie-Lou portera plainte contre lui et la police interviendra. Archambault sera alors détenu au poste de police, puis relâché. Fuck. À la suite de ces paroles menaçantes, Chloé fera une première tentative pour sauver sa mère. Avec l'aide de la police locale pour l'escorter, elle se rendra à son domicile. Elle dira d'ailleurs aux policiers qu'elle craignait cet homme. Elle trouvait, et avec raison, qu'il y avait trop de red flags à son sujet. Elle leur dira aussi que c'était la première fois que sa mère était avec un homme de ce genre. Cependant, elle en aura bavé pour simplement convaincre ses policiers de l'accompagner chez Archambault, et même encore aujourd'hui, elle estime ne pas avoir été prise suffisamment au sérieux. En plus, cette fameuse rencontre ne se déroulera pas du tout comme prévu. Lorsqu'ils arriveront, José sortira à l'extérieur pour les recevoir, plutôt que de les faire entrer. Ce sera ensuite en bégayant qu'elle leur dira que tout allait bien. Chloé a donc dû la forcer à lui parler et dira n'avoir pas réussi à trouver le regard de sa petite maman cette journée-là. Écoutons maintenant un extrait de Chloé nous racontant ce moment extrêmement difficile pour elle.
Je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire à elle, je sais pas comment ça peut se finir. J'appelle la police. Je me dis, faut que j'y aille accompagner parce que je pense que c'est la meilleure solution. Rendu là-bas, moi, je veux pas rentrer là. Les policiers sont là, je cogne, puis, tu sais, je vois ma mère. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est je suis correcte, tu sais.
Elle aurait jamais dit ça si elle était vraiment correcte.
Ben, je pense. Puis quand elle s'est mise à parler, là, j'ai vraiment eu un choc. Un choc parce qu'elle était pas capable de placer un seul mot sans bégayer. Puis je la prends par les bras, puis je la regarde, j'essaie de la regarder dans les yeux, puis c'est pas mon mère, là. Je pensais jamais que ma mère, elle aurait pu son regard de maman dans sa vie, tu sais. C'est difficile de repenser à ce moment-là. Parce que j'aurais tellement aimé que ma maman, ma vraie mère, ma maman, à ce moment-là, je sais qu'elle m'aurait écoutée. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle l'aimait. Tu sais, Patrick, c'est ce qu'elle disait. Là, je l'ai serré dans mes bras vraiment fort. Mm. Une grosse accolade, là, tu sais, collée sur sa joue. Puis j'ai dit, maman, s'il te plaît, viens avec nous. Je veux pas que tu meurs.
Elle dira plus tard que les proches et les victimes doivent être à l'affût en matière de violence conjugale et que tu ne peux pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. Elle dira qu'elle n'avait alors pas la formation ni les outils nécessaires pour le faire, malheureusement. Elle terminera en disant « J'avais l'impression que la seule chose que je pouvais faire, c'était d'attendre que la police m'appelle pour me dire que ma mère était morte ou blessée. » En février, José aura un court moment de lucidité. Elle devait sans doute sentir le danger venir et tendait des perches à ses proches. Elle avait même confié à sa fille Chloé vouloir s'enfuir de la maison, car son quotidien devenait de plus en plus sombre. Ce sera donc par texto que José lui expliquera son plan d'évasion. Elle lui textera ceci. « Ma fille, tiens-toi prête demain, plus tard en avant-midi, OK? Toutes mes choses sont prêtes. Je t'aime fort fort. » Sa fille lui répondra « OK, oui, j'attends de tes nouvelles. Moi aussi, je t'aime et ne lâche pas. » José terminera ce texto par « Je ne lâche pas, promis. » Lors de ce moment de lucidité, José écrira également à sa fille qu'elle aimait beaucoup Patrick, mais lui dira que ça ne marchera pas et que ses enfants étaient beaucoup plus importants que lui. Chouette, la lumière semblait enfin se pointer le bout du nez. Comme pour plusieurs femmes victimes de violences conjugales, José s'était préparé un petit baluchon, juste le strict nécessaire, qu'elle gardera accessible dans un endroit discret du domicile de son conjoint. Pour que son bourreau ne se doute de rien, elle avait même pensé lui raconter qu'elle avait rendez-vous avec sa belle-mère, soit la mère d'Archambault. Apparemment, ça, elle y avait droit. Durant ce temps, Sa fille effectuait des recherches pour lui dénicher un hébergement temporaire, mais comme dit précédemment, il y avait une pénurie de places dans les refuges. Je vous cite d'ailleurs ses paroles lors de ses recherches. On me disait que la victime devait appeler elle-même. J'avais besoin d'un endroit live car ma mère pouvait changer d'avis à tout moment, mais il n'y avait pas de place. Il fallait attendre. Josée finira finalement par aller chez sa fille, avant de retourner, une nouvelle fois, vers son conjoint. En fait, durant ces quelques semaines où Josée sera enfin en sécurité chez sa fille, Archambault ne lâchera pas le morceau. Il recommencera, petit à petit, à communiquer avec elle et à regagner sa confiance. Le 22 mars 2023, lorsque Josée reviendra vers lui, elle textera son amie Mélanie pour lui dire que les chicanes avaient diminué et qu'Archambault aurait accepté de suivre un cours de gestion de la colère. On peut donc supposer que c'est ce qui lui aurait alors fait changer d'idée et retourner vers lui. Malheureusement, ce seront les dernières nouvelles qu'ils auront tous de Josée, car ce sera à peine quelques jours plus tard que leurs corps seront retrouvés. Bien évidemment, les réponses aux nombreuses questions que se poseront les proches de Josée à la suite de ce drame seront très difficiles à obtenir. Cependant, une partie du passé d'Archambault pourrait nous en dire un peu plus sur sa personnalité et sur une partie de son passé.
L'ex-conjointe.
Précédemment, je vous ai rapidement mentionné qu'Archambault avait déjà été accusé par 3 fois de violence conjugale. En fait, nous en apprendrons un peu plus à ce sujet lorsque des recherches sur son passé seront faites par la suite. En 2018, il aurait, bizarrement, été acquitté d'un épisode troublant de violence conjugale. Voyons ça de plus près. La plaignante, que je surnommerai Nadine en raison d'une ordonnance de non-publication, avait porté plainte contre lui à l'été 2018. Tout comme pour Josée, Nadine et Archambault s'étaient rencontrés sur Facebook Rencontre et, tout comme pour Josée, ce sera sans tarder qu'elle s'installera elle aussi chez lui. Elle n'avait pas d'emploi, aucun endroit où vivre et n'avait, elle non plus, pas de voiture. Assez troublant comme similarité, je trouve. À cette époque, lors de sa comparution au palais de justice de Joliette, Nadine va raconter au juge que le soir du 25 août 2017, qu'elle et son conjoint avaient passé leur soirée chez des voisins. Il s'agissait d'une soirée des plus normales, du genre parle-parle, jase-jase et alcool coulant à flot. Ils vont tous les deux y consommer de l'alcool à outrance, mais aussi des drogues dures. Toujours durant cette soirée, Nadine dira avoir reçu des coups de poing à répétition de la part de son conjoint. Inévitablement, au retour de la fête, une dispute va éclater et dégénérer. Ils étaient alors couchés dans leur chambre lorsque c'est arrivé. Nadine va expliquer avoir eu très peur de lui à ce moment-là et que c'est pour cette raison qu'elle avait alors tenté de l'éloigner d'elle en le repoussant, mais qu'il aurait plutôt perçu ce geste comme une attaque. C'est là qu'il lui aurait dit « Tu veux me frapper? Moi, je vais te frapper. » Il aurait alors commencé à lui taper dessus. Nadine va alors essayer de se défendre à l'aide d'un couteau de cuisine qu'elle venait de récupérer. C'est à ce moment-là qu'Archambault se serait emparé de l'arme qu'elle tenait et aurait fait mine de vouloir l'utiliser contre elle en l'approchant de son cou. Nadine dira au juge avoir supplié son conjoint de ne pas la tuer. Elle avait alors dit à Patrick de lâcher le couteau en lui disant aussi qu'elle ne méritait pas ça. Mais ce n'est pas tout. Il avait même également essayé de la frapper avec le couvercle des toilettes. Elle mentionnera également qu'il lui faisait tellement peur que sa réaction avait alors été de rester calme pour ne pas le provoquer davantage. Elle terminera en disant qu'il lui avait dit, à plusieurs reprises durant la soirée, vouloir la tuer. Au terme de ce procès, la défense notera des incohérences entre la déposition de Nadine faite aux policiers et son témoignage fait au tribunal. Donc, malgré cette horrible soirée pour Nadine, Archambault sera acquitté. Calice. Le juge expliquera sa décision en disant que la version des faits donnée par Nadine comportait des incohérences. Il ne considérait pas son témoignage comme étant fiable, malgré le fait qu'il savait pertinemment qu'elle souffrait alors de stress post-traumatique. Il va également décrire le récit de Nadine comme étant changeant et confus, en spécifiant que la plaignante semblait avoir des souvenirs flous de la soirée. Bref, que l'accusé était loin d'être crédible et que Madame n'était pas fiable. Pourtant, durant le procès, elle lui avait bel et bien mentionné et à plusieurs reprises avoir eu des problèmes de mémoire à la suite de cette soirée et aussi avoir consommé de la drogue et de l'alcool avant la dispute. Elle lui dira avoir pu mélanger la chronologie des événements arrivés ce soir-là, car elle était également complètement choquée. Le juge n'avait en fait aucune preuve pour conclure hors de tout doute raisonnable qu'Archambault avait bel et bien commis ses gestes. Tout comme pour leur rencontre, ils vont rapidement mettre fin à cette relation toxique. Bonne idée. Cependant, un mois plus tard, Archambault tentera de la recontacter, et ce, malgré une ordonnance de la cour lui interdisant de l'approcher. Pour ça, il se créera un faux compte Facebook et lui écrira entre autres ceci. « J'espère que tu es OK, je suis désolée. Tu me manques et je t'aime. » Nadine le préviendra que le simple fait de lui parler pourrait le mener derrière les barreaux. Comme il a malgré tout continué à communiquer avec elle, elle l'a signalé aux autorités. Bien joué. Il sera évidemment déclaré coupable de non-respect de ses conditions. Bien fait pour lui. Il l'a quand même bien cherché. Lorsque Marie-Lou, la fille de José, prendra connaissance de cette histoire, elle ne comprendra pas du tout pourquoi cet homme a alors été acquitté à ce moment-là. Pourtant, les nombreux antécédents judiciaires qu'il avait auraient dû sonner l'alarme. Un élément de cette histoire restera cependant toujours gravé dans sa mémoire, soit celui que sa maman a tout de même vécu la violence conjugale avant sa mort et que c'est en grande partie à cause du système qui a failli à sa tâche pour la sauver. Elle se questionnera surtout sur le fait que cet homme avait quand même de gros dossiers criminels à son actif et qu'on le laissait tout de même en liberté. Et on parle toujours ici de cette même personne qui avait quand même déjà brisé les côtes de sa mère.
Les voisins.
Cet homme violent et récidiviste n'aura pas fait souffrir que ses conjointes. Quelques années avant la mort de José, le voisinage d'Archambault s'était organisé pour tenter de le neutraliser bien avant le drame. Selon eux, il s'agissait d'une véritable bombe à retardement. En fait, cet homme effrayait tout le quartier, au point où plusieurs d'entre eux avaient même demandé qu'il soit étroitement surveillé. Quand je mentionne que les voisins en avaient peur, je suis loin de parler à travers mon chapeau. Une des familles habitant près de chez lui gardait même, en tout temps, une batte de baseball près de leur porte d'entrée depuis plusieurs années. Il craignait, et avec raison, ses comportements impulsifs et violents. D'ailleurs, en août 2017, ils ont eu droit à une grande frayeur. Archambault était alors en couple avec Nadine lorsque des policiers sont venus frapper à leur porte. Ils venaient leur annoncer qu'ils devaient évacuer immédiatement leur demeure avec leurs enfants. Les agents de police croyaient qu'Archambault aurait pu être armé et donc ils ne voulaient prendre aucun risque. Il souhaitait surtout éviter une prise d'otage en cas de résistance de ce dernier au moment de son arrestation. La petite famille s'est donc aussitôt réfugiée chez un autre voisin. C'est une fois sur place qu'ils apprendront que Nadine venait alors d'être battue sauvagement. Malheureusement, Archambault sera de retour chez lui quelques jours à peine plus tard, ce qui est évidemment très fâchant. Ils diront tous que c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient décidé de garder leur distance avec lui. Excellente décision. Cependant, ils ne seront pas au bout de leur surprise avec cet individu, car 2 ans après cet événement, Archambault fera éruption chez eux, en état d'ébriété avancé, et voudra alors leur faire des excuses pour leur avoir donné la frousse ce soir-là et leur assurer qu'il ne leur voulait aucun mal. D'ailleurs, c'est sur leur terrain que le corps inerte de José sera retrouvé quelques mois plus tard. Aussi, le voisin qui avait alors accueilli cette famille lors de cette arrestation leur aurait confié qu'il avait déjà trouvé Nadine ensanglantée sur le pas de leur porte. Ce nouvel événement se passait environ 1 an avant l'arrivée de José dans le portrait. Le fait qu'ils avaient accueilli Nadine pour l'aider à ce moment-là va provoquer une grande animosité entre les deux hommes et n'en restera pas là. À peine quelques jours plus tard, en pleine nuit, Archambault viendra se présenter chez eux, accompagné de son grand Danois et habillé en commando. L'histoire ne parle cependant pas des paroles qui auraient été échangées entre eux, mais on peut facilement croire que cette famille est alors, eux, très peur. Mais ce n'est pas tout. les choses vont de nouveau se détériorer en juin 2020. Ces mêmes voisins vont se lever un matin et constater que la voiture d'Archambault est en feu. À ce propos, ils diront, et je les cite, « Nous avons été réveillés par un bruit d'explosion. Comme il s'agissait d'une période de grande sécheresse, nous nous sommes assurés d'être prêts à évacuer à tout moment en cas de propagation de l'incendie. » En bon citoyen qu'il était, cet homme ira aviser Archambault que sa voiture était en train de brûler et qu'il devait sortir immédiatement. Il se fera alors répondre ceci par son charmant voisin. « Allez-vous-en, j'ai des fusils, j'ai des grenades. » Malgré les menaces proférées, Archambault a tout de même dû être sorti de force de sa maison par les policiers pour permettre ensuite aux pompiers de maîtriser le brasier. Les voisins en avaient alors plus que marre de lui. Plusieurs d'entre eux vont se mobiliser pour qu'il soit placé dans un appartement supervisé. Ils justifieront cette demande par le fait de ses trop nombreux... vraisemblablement provoqués par des problèmes de consommation. Tous les résidents de ce quartier paisible, sans exception, étaient terrifiés par cet homme sans scrupules. Une voisine viendra expliquer aux policiers, ainsi qu'aux services sociaux, que leur voisin menaçait la sécurité de ses conjointes, mais aussi la leur, et qu'il fallait qu'un moyen soit mis en place pour qu'ils soient soumis à une surveillance plus serrée. Ils étaient tous d'accord pour dire que, selon eux, un événement grave risquait de se produire un jour, et ils n'auront jamais si bien dit. À ce propos, ils se feront répondre par les policiers, et tenez-vous bien, qu'ils ne pouvaient rien faire du tout, tant que rien de grave ne se sera produit. J'en suis complètement outré. Je suppose que c'est à la suite de ça que plusieurs voisins ont alors pris la triste décision de quitter ce quartier, autrefois si calme. Pourtant, aux yeux de tous, la mort de José Barriot était une mort annoncée, une tragédie prévisible et surtout évitable. D'ailleurs, chaque fois qu'ils entendaient parler de féminicide dans les journaux, ils pensaient évidemment à leurs voisins. Ils étaient tous convaincus qu'un jour, ils y liraient le nom d'une de ses conjointes. Évidemment, lorsque leur prédiction est arrivée, ils se sont alors tous dit « Ça y est, il l'a fait. »
L'autopsie.
Les résultats de l'autopsie finiront enfin par arriver. Un enquêteur au dossier appellera la famille pour leur dire ce qu'il en était. Selon ce rapport, grièvement blessé par son conjoint, José aurait réussi à se sauver des griffes de son bourreau en sortant de la maison in extremis et prendre la fuite, presque nu, dans un froid glacial. Les pathologistes lui remarqueront de graves blessures à la tête, probablement causées par un objet contondant. Elle serait ensuite tombée inconsciente dans la neige et serait décédée des suites d'hypothermie. My God, je trouve ça tellement effrayant. Pour ce qui est d'Archambault, il aurait bien tenté de se suicider et aurait succombé à ses blessures par la suite. La famille de José se demandera longtemps si ce suicide était planifié ou non. Je vous laisse d'ailleurs entendre un dernier extrait de l'émission « Femme, je te tue » à ce propos.
Il a notamment fait face à des accusations d'agression armée, de voies de fait et de menaces de mort. Il a été accusé 3 fois dans un contexte de violence conjugale dans le passé et on apprend qu'il devait se présenter devant le juge dans 3 jours suivant la date du drame pour fixer une date concernant des accusations antérieures.
Il était sûr là, de rentrer en prison par rapport à la cause de violence conjugale qu'il avait eue avec cette autre femme. Fait que c'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup, puis c'est ça. Je pense qu'il voulait pas aller derrière les barreaux, fait qu'il parlait de peut-être mettre fin à ses jours, puis tout ça.
Fait c'est que, ce qu'il a fini par faire. C'est donc, ce qu'il a fait. Donc, il a assassiné ta mère, puis il s'est enlevé la vie par la suite.
Mais c'est ça. Pourquoi, tu sais? T'aurais pu juste partir toi, tu sais. On n'en aurait pas voulu, peut-être. Moi, non, en tout cas, mais... Là, il a enlevé une mère, puis une grand-mère.
La conclusion.
Les femmes immigrantes, les femmes autochtones, celles en situation de handicap, les jeunes femmes, les femmes des communautés LGBTQIA, les femmes âgées, en situation d'itinérance, en situation de dépendance économique et les femmes racisées par la société sont parmi les plus à risque de subir une ou plusieurs formes de violence. Il faut refuser de baisser les bras et d'accepter que d'autres femmes soient agressées, violentées ou tuées. Certains diront qu'il y a de réels dangers pour les femmes lors d'une séparation, et c'est vrai. Mais il y a aussi trop d'hommes violents qui restent en liberté en attendant leur procès. Les dangers que cela pourrait représenter pour ces femmes ne sont pas pris assez au sérieux. La violence conjugale est un véritable fléau et doit cesser. Patrick Archambault avait besoin d'une aide spécialisée, mais il ne l'a jamais demandée. Mais savait-il seulement qu'il avait un problème? Pour ces hommes qui commettent des violences répétées, il existe de sérieuses lacunes dans le système. Tout repose sur les épaules des membres de la famille ou des proches des victimes, et bien sûr, ce sont les femmes qui en paient le prix. Ces hommes sont parfois emprisonnés pendant un certain temps, puis relâchés. Une valse qui mène malheureusement trop souvent à la mort. Pour ses proches, le drame de José Barrio a mis en lumière le manque de ressources d'hébergement, l'incohérence du système judiciaire et le manque d'initiatives policières. Ils se sont sentis abandonnés par un système censé empêcher ces tragédies. Les enfants et les proches de José ne sont pas du tout contents du décès d'Archambault. Pour eux, cet homme méritait de faire face à la justice et ils auraient bien sûr aimé en connaître beaucoup plus en ce qui concerne le déroulement de cette soirée macabre où leur mère est décédée de circonstances nébuleuses, mais au fil du temps, leur confiance dans les tribunaux et des forces de l'ordre s'est effondrée, car malgré leurs tentatives d'intervention, ils ont été incapables de sauver leur mère. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je rangerais les balais dans le placard pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!